Now, turn left, then you will have reached your destination.
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons et dans tous les sens.
Depuis le studio 621, une émission réalisée par Aline Pénito, assistée de Juliette Medviel et Louise Rollet, avec à la technique aujourd'hui Philippe Duclos.
Au sommaire cette semaine, serez-vous plutôt milliardaire ou Front Populaire ?
Il faut éliminer les 30 jours de vacances pour commencer. On ne peut pas avoir 35 heures par semaine en Europe. C'est la folie. Il faut travailler les samedis et les dimanches où on peut virer des gens sans aucun problème.
Il y a 2 millions de salariés en grève. Ce qui va peser dans le cadre du rapport de force, c'est que c'est 2 millions d'ouvriers en grève qui occupent leur vie.
Il faut qu'ils se démerdent, comme j'ai fait moi.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court et qui se faufile entre les fumées des lacrymos, dans les slogans des manifestants qui, depuis presque 3 mois maintenant, battent le pavé. La loi travail et tout ce qu'elle comporte de régression sociale, le peuple n'en veut pas. Ironie de l'histoire, il y a 80 ans tout juste, en juin 1936, une série de lois a été votée par le Front Populaire qui venait de remporter les législatives. Réduction du temps de travail, création des congés payés, organisation des loisirs, conquête du temps libre, bref, tout ce qui est aujourd'hui en voie d'être balayé par ceux qui se réclament précisément du Front Populaire. Nous sommes présents aujourd'hui pour affirmer notre filiation avec un grand passé de lutte et de conquête, clamait ainsi Jean-Christophe Cambadélis, place Léon Blum le 1er mai. N'hésitant pas à dresser des parallèles entre ce dernier et François Hollande. N'empêche que les célébrations des 80 printemps du Front Populaire se font plutôt discrètes, très discrètes même. C'est que le gouvernement socialiste doit quand même se sentir un peu gêné aux entournures dans son costard à 1 200 €. Imaginez célébrer la création des congés payés en passant au forceps l'allongement du temps de travail. Alors, pour fêter dignement ces 80 printemps, Antoine Chao est allé au musée de l'histoire vivante de Montreuil balader son micro à travers une expo consacrée au Front Populaire. Et pour ceux qui rêvent de s'offrir un jour Rolex et costard, Guy Banquetil est allé voir du côté de la France qui gagne. Rencontre à Miami avec un authentique milliardaire français, plein de bonnes idées pour nous faire avancer. En marche, qu'il disait, mais en marche avant ou en marche arrière? Comme un bruit qui court, serez-vous plutôt milliardaire ou Front Populaire? C'est jusqu'à 17h et c'est sur France Inter.
Antoine Chao, Charlotte Perry,
comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Victoire. 8 millions de salariés obtiennent satisfaction. La Confédération Générale du Travail, ses unions régionales et départementales ont dirigé le mouvement, conduit les grèves, orienté les revendications jusqu'à la victoire définitive, concrétisé dans les accords matinaux. La Confédération Générale du Travail est passée en 3 mois de 1 million d'adhérents à plus de 5 millions de syndiqués. Dans l'ordre, la paix, la discipline, avec l'aide du gouvernement du Front Populaire, elle a apporté à la classe ouvrière de notre pays des avantages considérables. Semaine de 40 heures, congés payés, réajustement des salaires, délégués syndicaux, conventions collectives. C'est la victoire du travail organisé contre l'anarchie et la misère, la possibilité pour des millions de travailleurs de vivre mieux, de se développer et de s'instruire dans une France unie et libre. Victoire.
Hashtag comme un bruit.
Des congés payés à la loi travail, le Front Populaire souffle 80 bougies en plein mouvement social et nuit debout contre la loi travail, une mobilisation qui cherche à préserver justement l'héritage de cette période de progrès social que l'on célèbre aujourd'hui. Direction donc Montreuil en Seine-Saint-Denis pour l'exposition 1936, nouvelles images, nouveaux regards sur le Front Populaire. C'est au musée de l'histoire vivante, inauguré en mars 1939, dans la dynamique du Front Populaire, encore et toujours debout. Musée de l'histoire vivante à Montreuil. Le musée de l'histoire vivante ouvre ses portes publiques le 23 mars 1939 lors de la célébration du 150e anniversaire de la Révolution française. Alors c'est une belle bâtisse au milieu du parc Montreau dans les Hauts de Montreuil. Et en ce moment, C'est 1936, nouvelles images, nouveaux regards sur le Front populaire. Il témoigne ainsi de la volonté de préserver l'idée d'une histoire populaire et sociale vivante.
Ah, mais c'est la véranda.
Ça y est alors, l'expo est ouverte.
Allumée. Oui, tout à fait. Il faut allumer les lumières de l'exposition. C'est important. Voilà. Hein.
Parce qu'il y a beaucoup de photos, mais pas que, hein, c'est ça?
Donc, il n'y a pas que des photographies.
Éric Lafont, alors, vous êtes commissaire de l'expo, c'est ça?
Je suis un des trois commissaires de l'exposition, avec Frédéric Sepède, de l'Office universitaire de recherche socialiste, et Jean Vigreux, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne, donc à Dijon. Voilà, et je suis aussi le directeur scientifique de cet établissement, le musée de l'histoire vivante à Montreuil. Voilà. C'est particulier parce que c'est unique en France. Déjà, on porte ce nom depuis la création de ce musée en 1937. Puis c'est l'ouverture de ses portes en 1939. Et puis c'est le seul musée d'histoire ouvrière et sociale. Voilà, donc dans le paysage muséographique des musées de France, c'est un peu particulier. Voilà, on peut dire original, unique. Voilà.
Et donc c'était d'autant plus important de faire une expo sur le Front populaire.
Oui, le musée est ancré dans cet esprit, dans cette politique de l'élan culturel de 1936. Le terme même d'histoire vivante. Pour l'époque, il y avait l'art vivant, il y avait le musée imaginaire, hein, Malraux, etc. Et puis les gens qui ont créé ce musée, eh bien, ils ont pris ce terme d'histoire vivante, d'histoire en mouvement, hein, d'histoire faite par celles et ceux qui font l'histoire, c'est-à-dire les masses. Alors à l'époque, on dit les masses, les populations laborieuses, la classe ouvrière, le prolétariat. Voilà, c'est les mots qu'on emploie à l'époque, qui sont presque des gros mots aujourd'hui. À l'époque, on est en 1936, les fondateurs de ce musée, c'est des dirigeants du Parti communiste, donc on est carrément dans une approche dite à l'époque marxiste-léniniste. Donc c'est dans cette ambiance-là que se crée ce musée, dans le cadre du Front populaire, avec l'objectif qui est la République sociale, la République des ouvriers, la République des travailleurs. Voilà, on ne cache pas les attendus politique à cette époque-là, on ne les dissimule pas ou on n'en donne pas des termes aseptisés, on en affiche les couleurs de la Révolution française jusqu'à Jean Jaurès.
C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé d'un pantin au long bras. Faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras. Pleurez dans nos villes, nos sarcasmes aux armes. Aux armes. Etc. Que veut cette horde de militaires, de traîtres et de rois conjurés, quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires, alors qu'on est tous étrangers aux armes, aux armes. Des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel. L'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux à la naissance, parfois, liberté liberté et chérie. Ceux qu'on la thune n'ont que l'odeur, amour sacré de la patrie et la fraternité se meurt.
Aux armes, Éric Lafont, c'est aussi un moment particulier, non, pour célébrer le Front populaire aujourd'hui. On est en train de vivre un conflit social important dans le pays, justement pour défendre des acquis sociaux qui sont en partie justement issus de cette période du Front populaire.
Oui, c'est la période où vont être adoptées à l'Assemblée nationale deux réformes sociales de la plus haute importance. En tant qu'historien, je parle, hein. Ce sont les congés payés, la généralisation des congés payés à la classe ouvrière qui n'en bénéficiait pas. Certaines catégories de travailleurs en bénéficiaient depuis très longtemps, mais la classe ouvrière en général n'en avait pas. Et donc ils vont en bénéficier grâce à cette loi. Et puis la réduction du temps de travail, qui passe d'une moyenne hebdomadaire de 43 heures en France, avec des disparités. Il y a des endroits où on va travailler jusqu'à 48, 52 heures, diminué à 40 heures. Voilà. C'est la plus forte diminution de temps de travail. Il faut attendre après 1997, Martine Aubry et Lionel Jospin, pour passer de 39 heures à 35 heures. Voilà. Donc on a ces deux moments qui sont adoptés à la Chambre, alors que depuis le mois de mai, un large mouvement social s'est enclenché dans le pays, avec cette particularité complètement nouvelle qui va jouer énormément dans le cadre du rapport de force patronat et travailleurs en grève, qui est l'occupation des usines. Entre les deux, on a un gouvernement qui, pour la première fois, va présider les négociations. C'est la première fois. Donc Léon Blum, Roger Salengros, Jules Moch vont assister à la négociation dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, qui s'appelleront donc Accord Matignon au singulier ou Accord au pluriel, comme on veut. Voilà, Accord Matignon. À préciser qu'il y a 2 millions de salariés en grève qui occupent leurs usines dans le calme, que le gouvernement, lui, est soutenu par ce mouvement de grève. Ça, c'est assez rare, c'est un mouvement de grève qui ne se déclenche pas contre un gouvernement, mais qui se déclenche pour soutenir un gouvernement. Les travailleurs qui ont fait grève en 1936, ils sont à 99% les électeurs des députés socialistes, radicaux socialistes et communistes qui ont été élus et qui forment une majorité de gauche.
Article 1er. La délégation patronale admet l'établissement immédiat de contrats collectifs du travail.
Le 7 juin.
Article 2.
Les accords de Matignon sont signés par la délégation du patronat et par la délégation CGT présidée par Léon Jour.
Article 3. Les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour les travailleurs d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel. L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois. Article 4. Les salaires réels pratiqués pour tous les ouvriers à la date du 23 mai 1936 seront réajustés suivant une échelle décroissante, commençant à 15%. Pour les salaires les moins élevés, pour arriver à 7% pour les salaires les plus élevés.
Alors, Frédéric Cépède, vous êtes membre de l'Office universitaire de recherche socialiste, l'Ours, et vous êtes donc commissaire de l'expo 1936, nouvelles images, nouveaux regards sur le Front populaire. Frédéric Cépède, en quoi ça éclaire la période d'aujourd'hui ?
Est-ce que ça éclaire la période d'aujourd'hui ? Je ne sais pas. Par contre, le 1936 et le Front populaire marquent la première expérience d'un gouvernement dirigé par un socialiste. Donc, il y avait eu des gouvernements de gauche avant 1936, mais c'est la première fois qu'un socialiste, Léon Blum en l'occurrence, est président du Conseil. Et donc, c'est une première fois. Et cette première fois d'un socialiste, elle est marquée par des réformes sociales qui, elles, ne seront jamais remises en question. C'est la deuxième semaine de congés payés, c'est la réduction du temps de travail, les 40 heures, même si ensuite on va revenir sur la durée. Ce sont les conventions collectives. Donc c'est toute une nouvelle législation sociale qui se met en place en 1936 et qui va avoir des rebonds en 1946, puisqu'on retrouve beaucoup des éléments dans le programme du CNR, ou que l'on retrouve en 1956 avec la troisième semaine de congés payés par le Front républicain dirigé par un socialiste, Guy Mollet. Et puis c'est 1981 avec la cinquième semaine de congés payés avec Pierre Mauroy comme Premier ministre. Et à chaque fois que la gauche revient au pouvoir, elle veut marquer de son empreinte la vie politique en allant plus loin dans la politique sociale. Ça sera la réduction du temps de travail à 35 heures dans le gouvernement de Lionel Jospin en 1997. Donc voilà ce que nous dit le Front populaire aujourd'hui, c'est qu'il nous trace un chemin d'une autre façon de concevoir la vie au-delà du travail. Et il pose des questions à aujourd'hui, parce que pourquoi s'arrête-t-on aujourd'hui ? Pourquoi ne discute-t-on n'acceptons plus, comme dans les années 70 ou dans les années 90, de la réduction du temps de travail? Pourquoi le temps libéré, toutes ces questions-là ne sont plus posées de la même façon? Pourquoi on n'est que simplement sur des histoires de compétition? Voilà ce que 36 peut poser comme question aujourd'hui.
Plus de 1000 artistes professionnels sont venus apporter aux grévistes de la région parisienne par l'intermédiaire de la Maison de la Culture leur solidarité et leur talent. Les distractions et les jeux alternent avec les différents travaux d'entretien, de cuisine et de nettoyage que se sont distribués par roulement les grévistes. Ronde, saut à la corde, basketball. Sport nouveau pour ces corps que le travail courbe et empêche trop souvent de jouir du soleil et de l'air libre.
Là, il y a toute une série d'affiches. Confédération générale du travail, pour supprimer le chômage, exigeons les 40 heures.
Et de l'autre côté, vous avez l'affiche patronale contre les 40 heures.
Alors là, c'est l'affiche justement patronale, c'est prix de revient plus élevé, vente encore réduite, rendement moindre.
Et puis le gros, le mot qui barre le bas de l'affiche, hein, en gros, misère. Là, on a une propagande qui vise la catastrophe. Là, on a mis un espace exprès où l'affrontement se lie. Hein. Une affiche patronale qui dit non aux 40 heures, au milieu des photos qui rappellent un rapport de force qui s'exprime et des décisions politiques qui sont prises. C'est comme ça qu'on fait de la politique, hein, sinon on reste chez soi. Et puis, à droite, là, on a la grande affiche de la CGT, faite par Glatzer, hein, qui est une très très belle affiche, qu'on n'a pas beaucoup montrée, qui rappelle un peu le 19e siècle, d'un prolétariat enchaîné à la machine, triste, exploité. C'est pas totalement faux encore en 1936. Et donc, le mot d'ordre, c'est « exigeons les 40 heures pour supprimer le chômage », qui ouvre tout le champ du débat et de l'évolution d'une société. Pour supprimer le chômage, exigeons les 40 heures. Voilà. On est à deux conceptions qui s'affrontent.
Et Éric Lafond, qui édite cette affiche patronale? C'est l'équivalent du MEDEF de 36.
Le patronat de l'époque a des réseaux. Hein, ils ont des dessinateurs avec eux, des journalistes, les plus gros titres, ceux qui tirent le plus d'exemplaires. Hein. Alors ça, c'est faut toujours le redire. En 1936, la gauche est majoritaire, de pas beaucoup. Et la société française n'est pas devenue du jour au lendemain, entre avril et mai 1936, une société où tout le monde a envie de faire la révolution, de construire la République émancipée, sociale, démocratique, universelle. C'est pas du tout ça. Hein. Donc le rapport de force est beaucoup plus tenu entre une droite très forte, une Église catholique encore très forte, des réseaux patronaux, des réseaux sociaux qui font de la propagande, qui s'expriment, qui dirigent. Et donc, c'est la société française est dans cet état-là. Voilà. Après, une grande salle sur la culture et les loisirs, avec beaucoup de photos, un mur d'images de Français en vacances, et puis les photographies de Pierre Jamais, que j'aime particulièrement, qui sont gérées par la fille, qui s'appelle Corinne Jamais. Une France jeune, souriante, mais qui réelle, hein. c'est pas des photos montées ou truquées. Celles et ceux qui ont vécu cette période, ils le diront. Hein. Dans cette période terrible, on ne savait pas ce qui est arrivé. On pouvait le deviner avec Hitler et les menaces qu'il faisait peser, mais personne ne pouvait imaginer qu'on allait vivre entre 40 et 44 les années noires. Et donc là, on en profite. On en profite, donc on rit. On s'amuse, on joue. Pour être poli avec les auditeurs, on fait l'amour. Voilà. Alors, c'est pas, il y a pas qu'en 36 qu'on fait l'amour. Je rassure tout le monde, bien sûr. Mais l'ambiance générale, dans une France très violente, avec des rapports de conflits très violents, une extrême droite puissante, avec un antisémitisme et une xénophobie très, 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 très violente, on a cet espace-temps de la joie, du bonheur, de la volonté de bonheur, pour reprendre un terme. Qui s'affiche dans ces photographies-là. Et donc, on voulait le montrer, ça aussi. Ça ne fait pas partie que de la légende. C'est aussi une réalité.
Hashtag comme un bruit. Comme un bruit qui court sur les réseaux sociaux.
Ailleurs, la Java, au son de l'accordéon, entraîne les couples grévistes. Au cinéma Tirage Maurice, chez Renault, au studio de Joinville, on danse. Regardez ce brave comptable qui s'en donne à cœur joie.
Comme un bruit qui court.
La danse du ballet.
Sur France Inter.
Denis Siffer, vous sortez un numéro hors série de Politis sur le Front Populaire. 1936-2016, que reste-t-il du Front Populaire? C'était le moment de se poser cette question, là, en plein mouvement social, en pleine nuit debout. Alors, que reste-t-il aujourd'hui du Front Populaire?
Quand on a fait le projet de ce hors série, on ne mesurait pas à quel point on allait tomber dans l'actualité. Hein, parce qu'effectivement, on ne voulait pas faire un journal d'histoire, même si on a sollicité des historiens, mais on voulait comparer des époques qui finalement ont peu de choses en commun. Hein. Mais en revanche, ce qu'on constate, c'est que ce qui a fait la grandeur du Front populaire, c'est pas le Front populaire, c'est le vaste mouvement de grève qui a eu lieu à partir du mois de mai et qui a finalement plus ou moins contraint le gouvernement à ses acquis sociaux qu'on célèbre encore maintenant et qu'on détruit aussi maintenant. Et finalement, bah aujourd'hui, qu'est-ce qui fait peut-être la grandeur de notre époque, il faut l'espérer, c'est ce mouvement social très important. Donc ça c'est ce qu'il y a en commun finalement. Les époques sont très différentes, mais dans un cas comme dans l'autre, on voit que ça part de la base du mouvement social et pas trop des politiques.
La SFIO et le Parti Socialiste, alors qu'est-ce qui a changé en 80 ans ?
Ah, il y a eu beaucoup de ruptures historiques, hein, parce que c'est plus du tout la même chose. Il y a eu la guerre, bien entendu. Il y a eu aussi l'épisode Guy Mollet, la guerre d'Algérie. Donc vraiment, qui est la destruction de la SFIO. Hein. Et on se demande si finalement, maintenant, on n'en revient pas un peu à ça. C'est-à-dire à la fin du cycle Parti Socialiste, c'est-à-dire le Parti Socialiste de Mitterrand, hein, qu'il a créé en 71. Qui était une relance du Parti Socialiste. Et on a l'impression que c'est plus Guy Mollet, c'est François Hollande, c'est Manuel Valls, mais qu'on est finalement dans une rupture totale avec les idéaux et la tradition sociale. Même, je dirais même, la tradition réformiste, parce que on parle de social-démocratie, mais je récuse, moi, personnellement, complètement cette expression. On n'est plus dans la social-démocratie. Cette démocratie, c'était des réformes positives. On pouvait peut-être être révolutionnaire, rêver de plus. Mais enfin, c'était des progrès sociaux. Là, on est dans la régression sociale. Donc on est un peu dans l'équivalent de ce que la SFIO à la fin a proposé avec le colonialisme, c'est-à-dire la torture en Algérie. C'est pas la torture, Dieu merci, mais c'est quand même une régression sociale très spectaculaire.
Alors vous signez un éditorial hein, sur ce hors-série sur le Front populaire, Le sourire des humbles.
Ben oui, parce que finalement, on a cherché les points communs entre cette époque et puis aujourd'hui. Et finalement, on se dit que ce qui est très rare dans l'histoire, c'est quand on voit les ouvriers, les salariés, les humbles sourire, être joyeux, être heureux, y compris d'ailleurs au travail, dans les usines, etc., avec les congés payés, etc. Bon. Alors malheureusement, on sait ce qui est advenu après 36, et on sait que ce sourire, il a été éphémère, mais ça fait quand même plaisir. Et aujourd'hui aussi, on voit des gens qui sont combatifs, qui sont énergiques. Bon, ils n'ont pas trop le sourire, forcément. Mais enfin, il y a cette énergie positive qui sort des mouvements, des occupations, etc. Et finalement, c'est peut-être ça le point commun. C'est le sourire des humbles qu'on retrouve.
Hello, le Schmick pour Chanteur d'Actu. Le 42 mars dernier, on était place de la République à Paris pour écrire, avec plus de 25 personnes, cette chanson sur le travail. Merci, patron. Ok. Assez de valse, autorité, besoin de vivre la vie rêvée, congé payé toute l'année. Démission des Macron banquiers, épanouissement général, faisons dans la monnaie locale. La nuit debout fait sa fête au travail, on reprend les rênes avant que ça déraille. Ensemble on réinvente l'horizon, on t'aimait bien. Merci patron.
À voir donc 1936, nouvelles images, nouveaux regards sur le Front populaire. C'est au Musée de l'Histoire vivante à Montreuil jusqu'au 31 décembre. Et le numéro hors-série de Politis qui accompagne l'expo « Que reste-t-il du Front populaire dans vos kiosques ?» Et la mairie de Paris aussi propose une expo « 1936, le Front populaire en photographie ». Et maintenant, costard, Rolex et dents blanches, direction Miami avec Guy Ventil.
Merci patron.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Décidément, ce sera compliqué de circuler aujourd'hui entre la pluie et la grève.
La grève continue.
C'est la 8e en 3 mois, mais cette fois, elle pourrait bien s'inscrire dans la durée.
La crainte de la paralysie s'installe.
Et la situation pour les usagers ne devrait pas s'arranger.
Ce sont des méthodes de voyous, ce sont des méthodes d'irresponsables. Il faut débloquer les ponts, débloquer les ports. C'est urgent, car nous asphyxions toute l'économie française.
Donc la France, elle fonctionne, elle avance, elle doit continuer à avancer. Et la grande majorité des Français aujourd'hui travaille, entreprend et veut faire des choses.
Puis d'écouter Macron, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit réussissez, enrichissez-vous.
Le ministre a finalement admis qu'il devait acquitter l'ISF.
C'est en particulier l'un des traumatismes français qui est cette volonté d'égalité qui s'est transmise en égalitarisme jaloux. Et donc je continuerai, chaque jour que Dieu fait, à pousser les jeunes à réussir.
Je le cite, hein, il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir des
milliardaire.
Dans une France sur le point d'être bloquée entre grèves et inondations, où l'état d'urgence et la contestation sociale en viennent à menacer l'Euro de football, nous avons eu envie de revenir sur un message positif, loin des vieilleries du Front populaire. Fini la pluie et les manifs. Comme un bruit qui court, retourne à Miami chercher un peu de soleil et de motivation auprès de Monsieur Christian, un Français qui a fait fortune dans le Nouveau Monde. Monsieur Christian est un roi du poulet grillé, un véritable millionnaire self-made man. Authentique success story à l'américaine, il vit maintenant dans le quartier le plus chic de la ville la plus chère des États-Unis, où il va nous faire faire le tour du propriétaire dans ses 3 maisons et 5 voitures, tout en nous donnant les secrets de son succès et quelques conseils pour redresser la France, qui vous feront peut-être alors considérer la loi travail sous un jour plus positif. Voici donc notre modeste contribution pour sortir notre pays de l'immobilisme, pour vous donner la gagne et vous bouger, comme un bruit qui court pour rattraper la réussite et le succès, du fric à Miami, une vie de millionnaire.
Now, turn left, then you will have reached your destination.
Oh là là, les voitures qu'il y a, 1, 2, 3, 4, 5 voitures et une Ferrari. J'essaie de me mettre là sans tamponner la Porsche ni la Chevrolet. Je suis un peu pouilleux moi avec ma voiture, mais bon.
Une maison gigantesque, je ne vois que le devant. Et voilà la sonnerie. C'est Angette, hein.
Oui.
Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, et vous? Je ne dérange pas trop?
Non, pas du tout. Venez.
Merci. Waouh, c'est impressionnant l'arrivée, hein.
C'était facile de trouver?
Je m'assois.
Regardez tout là. Donc.
Il y a tellement de tableaux qui ne sont même pas tous accrochés, tellement il y en a.
Ah oui, oui, non, exact. Il y en a beaucoup et ma femme, elle ne veut plus que j'achète. Parce qu'on n'a plus de murs.
Il va falloir acheter d'autres maisons encore.
Exact, c'est pour ça que j'ai 3 maisons.
Et là, regarde ça, c'est drôle. Un détail, c'est sur la table de chevet, j'ai les photos de famille américaine, prospère.
Ouais, ouais.
Et il y a les clés de voiture.
Oui, voilà.
Et là, je vois Ferrari, oui, Bentley.
Les Range Rover.
Range Rover.
Et puis la Panamera. Voilà, ça, c'est les 4 voitures que j'ai. C'est pas mal pour un Français qui est venu ici avec très peu d'argent dans la poche.
Alors, comment je vous présente, justement? Parce que moi, je suis venu faire un portrait d'une success story à la française.
Oui, oui. Ben, je suis totalement français. Ma mère était grecque. Mon père était breton. Ma famille est du 12e siècle. Maé de la Bourdonnée, on est...
Vous avez une chevalière.
Ça, c'est la chevalière. Il y a 2 symboles. L'un, c'est le croissant. Ouais. Et ça, c'est pour les croisades.
C'est la hache.
Une famille de guerriers. Donc...
Bon, alors, on visite un peu,
ouais,
Christian.
Oui, on visite.
Je peux vous appeler Christian?
Bien sûr. Super sympa. Ça, c'est mon fils Julien. Et ça, c'est ses copains.
Bonjour.
Hey, guys.
On vous laisse regarder votre film sur écran géant. Et on sort, waouh.
On sort dehors.
C'est la piscine avec vue sur le skyline de Miami. Et on est directement là, les pieds dans l'eau.
Ouais. Moi, je travaille d'ici de la maison, je ne bouge pas. Ça ne sert à rien d'avoir une belle maison avec une belle vue si on va dans un bureau sombre tous les jours, non? Mon bureau, il est juste au coin, là-bas.
Et il y a des beaux bateaux aussi, hein?
Oui, oui, ça, c'est mon voisin qui est aussi mon avocat.
Ici. C'est bien d'avoir un voisin avocat. Pour le business, c'est
juste pas... Just in case. On ne sait jamais, non? C'est sympa, non?
Ah ouais, ouais,
c'est... Aujourd'hui, une belle journée en plus.
Mais alors ça, c'est une de vos 3 maisons, vous m'avez dit.
Une des 3 maisons. Alors, j'ai une maison à 50-04, on va aller dans quelques minutes, ouais, que je suis en train de construire, qui va être terminée dans 2 mois. Et puis, j'ai la 3e maison qui appartenait à Pablo Escobar.
Pablo Escobar, le Colombien?
Oui, oui, le drug dealer. Et que je vais détruire, donc raser, pour construire une nouvelle maison, et qui est à 1 bloc d'ici. Donc, en 15 blocs de North Barrow, j'ai 3 maisons.
Et North Barrow, il faut dire, c'est le quartier le plus chic. C'est
comme l'avenue Montaigne, ici, de Paris. Quoi.
Quand on voit, là, c'est que des maisons jardins gigantesques.
C'est une rue extraordinaire. Il y a beaucoup d'Européens aussi qui veulent venir vivre ici. Beaucoup de Français, beaucoup d'Italiens.
Et pourquoi ils viennent alors, les Français?
Et la plupart des Français, donc, c'est soit des gens qui sont partis il y a longtemps parce qu'ils ne croyaient plus aux rêves européens, ou alors c'est des gens qui maintenant ont beaucoup d'argent et qui veulent vraiment passer quelques mois par an ici aux États-Unis.
C'est aussi pour payer moins d'impôts, j'imagine.
Et j'imagine aussi pour payer moins d'impôts. En Floride, on paye seulement 39,8%. Quand vous vivez à New York, vous approchez les 55%. Ouais. Donc, vous économisez 15% de fortune. Donc, les gens qui font dans le hedge fund, dans la finance et qui gagnent 50 millions de dollars par an, Vous comprenez, 15%, ça fait des sommes.
Comme ça, ils en gardent plus.
Ouais, ils en gardent plus et ils achètent la maison avec la différence.
Oui, ça vaut combien les maisons dans le quartier ici?
Mais aujourd'hui, c'est très difficile de trouver une maison à Nord Bay Road en dessous de 12, 14 millions.
De dollars.
De dollars.
Ah ouais.
Il y en a une qui vient de vendre il y a juste 2 semaines. Et c'est un type de New York qui vient de l'acheter, un financier américain. Et il vient de payer 30 millions de dollars pour une nouvelle maison. Et la maison n'est pas très grande, elle est 12 000 pieds carrés.
Alors, en mètres carrés, ça fait combien?
12 000, ça fait 1200.
Ah oui, c'est raisonnable.
Oui, oui.
Ah mais donc quand même, il y a des investisseurs. On dit que c'est la crise, mais quand même, ils réussissent ça marche encore.
Il n'y a pas de crise ici.
Réussir, ça peut être aussi gagner de l'argent. J'ai rencontré presque chaque jour des entrepreneurs. J'ai presque toujours constaté la même chose. Un appétit pour le travail. Un goût pour l'effort inouï. Une confiance inébranlable que chacun avait dans son avenir individuel.
Ça, c'est ma femme, Jennifer.
Hi, pleased to meet you.
Nice to meet you.
Et ça, c'est mon petit chou.
Ah oui, le petit chien qui vient. C'est un petit basset, c'est ça?
Oui, un petit basset. Et c'est l'amour de ma vie, ce petit. Sweetie pie. Oh, you come. Don't run away.
C'est le bruit des griffes du chien sur le marbre.
On peut aller avec ma voiture. Je vais vous montrer le terrain, si vous voulez, de Pablo Escobar.
On fait une petite balade?
Oui, ensuite, on peut aller à... Je vous montre ma maison.
Super.
Et puis ensuite, on peut aller à déjeuner à mon club, si vous voulez. Hein? Allons-y. Quelle voiture vous voulez qu'on aille, alors?
Je vais manger avec celle-là. Là. C'est laquelle? Alors, vous avez pris quelle clé?
Bentley,
très bien.
C'est bon? Ça vous va?
Ça me va. Oui, j'aurais été un peu déçu de prendre que la Range Rover, je ne le cache pas.
C'est ce que je pensais aussi.
C'est trop classique. Ah, en sortant tout de suite, là, la claque de chaleur. Ah oui, ça fait un bruit particulier, la Bentley.
C'est une W12. C'est un de mes plaisirs, c'est de conduire mes voitures tous les jours. Et ici, il y a la maison de... C'était Jennifer Lopez qui vivait ici. C'est Phil Collins qui vient d'acheter, vous voyez.
C'est des villas, mais c'est des palais, quoi.
Oui, ouais, c'est une maison énorme. Et là, ma propriété, elle est là-bas, vous voyez les fleurs rouges.
Oui, oui, oui. Et ça, c'est celle de Pablo Escobar, là.
Et ça, c'est la maison de Pablo Escobar. C'est ça qui fait la ville intéressante.
Écoute, comme un bruit qui court sur France Inter.
Donc, c'est la rue de tous les stars, ici, Nord Bay Road.
Ouais. Donc, alors, voilà la maison, grande maison rose avec des baies vitrées.
Et ça, c'est la vue, regardez ça.
Avec là aussi la vue superbe sur toute la baie de Miami.
Avec des superbes couchers de soleil en plus. C'est joli, hein?
Magnifique.
Ouais. Venez, je vous montre les trois terrains ensemble.
Végétation luxuriante. Et puis c'est les maisons, les pieds dans l'eau avec leur petit ponton et le yacht amarré.
C'est très 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 belle propriété.
Pablo Escobar avait l'habitude, selon la légende, de cacher de l'argent dans ses villas. Alors, le nouveau propriétaire, un Français qui a fait fortune aux États-Unis, a décidé avec sa compagne de détruire toute la maison pour trouver le trésor. Après plusieurs jours de travaux, les ouvriers ont finalement trouvé un coffre enterré sous les sols en marbre. Visiblement, les nouveaux propriétaires avaient trop parlé de leur chasse au trésor.
Avant même qu'on ait pu jeter un œil, il a été volé.
Ils ne sauront jamais ce que contenait le coffre.
À quand est-ce que vous avez quitté la France, Christian?
J'ai quitté la France en 1985. Parce qu'à l'époque, il y avait les socialistes au pouvoir.
Ah oui, Mitterrand, 81.
Et ils ont commencé à nationaliser tous les secteurs importants, banquiers et tout ça. Plus les Français, c'est des gens qui sont fondamentalement jaloux. Et les gens n'aiment pas parler de l'argent. On a honte de l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui peut être très positif. Donc pour moi, je me suis dit, si je dois commencer une nouvelle vie, quel est le pays qui m'offre le plus de chances pour vraiment réaliser mes rêves? Et donc les États-Unis, c'est vraiment la meilleure de mes décisions.
Oui, vous aviez depuis très jeune le rêve de devenir millionnaire.
Oui, oui, depuis que j'avais 10 ou 12 ans. Je disais d'ailleurs à mon oncle...
On est en train de refermer la maison de Pablo Escobar.
Je lui disais, malheureusement, il est mort, donc il n'a pas pu voir mon succès. Mais je lui disais toujours, un jour, je vais être millionnaire. Et lui, il riait. Et je lui dis, tu peux rire, mais, you know, quand je serai dans ma Bentley et tout ça, tu ne vas pas rire beaucoup. Donc non, le système en Europe est... est fait d'une manière que c'est très très difficile de devenir successful.
On remonte dans la Bentley en disant ça.
C'est un système qui est totalement anti-succès. Et même avoir une belle voiture en Europe, même quand je vivais à Paris, les gens ils vous rayaient la voiture.
Et ça n'arrive pas ici à Miami.
Non, jamais. Et ici, toutes les fois que je suis avec une de mes voitures, par exemple la Ferrari, parce que les gens ils aiment la Ferrari, la plupart des gens ils me donnent des thumbs up.
Ah oui, ils font le pouce pour dire
toujours,
yes.
Toujours. Je suis content pour toi, quoi. Alors qu'en France, les gens ils vous regardent avec un regard pas très amical. Et si vous êtes successful, tout le monde veut vous prendre votre succès. Les impôts qui sont suffocants, toutes les choses qui sont anti-business et qui font que beaucoup de gens, des talents et tout ça, ils quittent la France, ils vont soit en Angleterre, soit en Belgique, soit aux États-Unis, soit en Suisse. Et les gens qui sont successful, ils veulent tous partir. Ça, c'était la maison de Matt Damon.
L'acteur,
hein? Ouais, l'acteur. Il vient de la vendre il y a quelques mois. 15 Damon. Millions de dollars.
Moi, on m'a dit que Matt Damon, il était de gauche.
Il est de gauche. Il est très sympa, mais je ne l'aime pas parce qu'il est de gauche. Je l'ai rencontré, c'est un type super intelligent et très sympathique.
Un ami de Noam Chomsky.
Mais pour moi, c'est un communiste.
Hein. Et ça, les communistes ici, on n'aime pas beaucoup.
Non, on n'aime pas beaucoup. Pas de communistes ici, s'il vous plaît.
Et qu'est-ce que vous avez pensé quand justement Nicolas Sarkozy était président?
Mais je pensais qu'il aurait les balls, comment dirais-je?
Les couilles.
Les couronnes. Pour faire des changements qu'il avait promis et puis il n'a rien fait. C'était un big disappointment.
Une grande déception.
Une grande déception. Il a parlé beaucoup, il a promis beaucoup, il n'a rien fait, vraiment. Ça, c'est la maison de Chris Bosch. Et je pensais vraiment que c'était l'espoir de pouvoir vraiment changer un peu le système en Europe. Vous savez qu'en France, je crois qu'on ne peut même pas ouvrir les dimanches parce que les gens ne veulent pas que les gens travaillent pendant les dimanches. C'est totalement anti-business.
La loi Macron devait faciliter l'ouverture des magasins le dimanche. Un an après le vote, rien n'a vraiment changé.
Non. Il faut comprendre les entreprises, il faut faire confiance aux employeurs, il faudra déverrouiller ce marché du travail, il faudra faire les réformes structurelles profondes du pays.
Je crois qu'il y a une France qui travaille, une France qui produit, une France qui croit en son avenir, il faut la laisser avancer.
Ça, c'est des maisons qu'ils sont en train de construire aussi pour revendre.
Ah ouais, c'est gigantesque.
Donc, vous voulez que je vous montre cette île qui est très jolie? C'est une île qui s'appelle Lagos Island. Il y avait Cher, la chanteuse qui vivait ici, Billy Joel aussi.
Ah oui, là, c'est carrément, on rentre, c'est une propriété.
C'est privé ici.
L'île est privée, donc ouais. Il y a des barrières avec un truc de sécurité. Donc, ouais. Mais vous connaissez?
Ouais, je connais tout le monde, donc ils me connaissent. Sinon, ils arrêtent tout le monde ici.
Ah oui, il y a carrément la patrouille de sécurité, ça ah c'est oui, les flics qui oui, patrouillent oui.
Dans... C'est pas les flics, c'est des services privés qui patrouillent.
Dans le condominium, quoi. Ouais,
ça, c'est la maison de Lil Wayne.
Waouh.
C'est là, ici, la blanche, là.
C'est un pâté de maison, en fait.
Ouais, ouais.
Là, il y a une réception, je sais pas quoi, qui est organisée, il y a des tentes.
Ouais.
Ah oui, c'est tranquille ici, hein.
Tranquille.
Il n'y a pas de homeless qui traîne, il n'y a pas de mendiant.
Non, il n'y a pas de mendiant, pas de rien. Ça, ici, à droite, je vais vous montrer la maison de Cher, là.
Est-ce qu'il y a des pauvres à Miami?
Oui, oui, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup. Mais dans tous les États-Unis, dans toutes les grandes villes, il y a toujours des poches de pauvreté. Hein.
C'est-à-dire que c'est le pays où c'est possible, mais c'est aussi le pays des inégalités.
Oui, bien sûr, bien sûr. Les systèmes sociaux ne sont pas développés comme la France. La différence, si vous voulez...
C'est-à-dire la santé, l'éducation, voilà. Le logement, tout ça, c'est...
C'est un désastre. Donc, traditionnellement, c'est le secteur privé qui aide... Les gens...
Avec des organisations caritatives, voilà, des fondations...
Voilà, voilà. Donc, ma femme, c'est une fondatrice de cette charité qui s'appelle Women of Tomorrow. Tous les ans, elle fait des galas, fundraising, où elle fait rentrer à peu près 1,5 million de dollars. Et donc, elle redistribue tout cet argent à ces jeunes filles qui ont peu d'espoir. Donc, les Américains sont très, très généreux.
Bah parce qu'en France... Et en Europe,
c'est l'État qui s'occupe.
Ça passe par les impôts, c'est-à-dire exactement. Que tout le monde contribue.
Exactement.
Et si les riches, comme ils payent moins d'impôts, bah, il leur reste de l'argent qui, en plus, est déductible. Donc, on
exactement.
Peut faire une...
Exactement.
On peut gagner un peu d'argent
voilà.
En aidant.
Voilà. D'ailleurs, tous les gens qui ont des grosses fortunes, ils ont tous une fondation. Et pour moi, je préfère que ce soit des businessmen. Cette maison vient de vendre pour 21 millions de dollars.
Waouh.
Ouais. Moi, je préfère que ce soit le secteur privé qui a fait l'allocation des ressources plutôt que l'État. Parce que l'État, il... par définition, est incompétent.
Voilà le petit portillon qui se lève devant nous et on retourne dans la partie publique
de North Bay Road, voilà.
De North Bay Road, c'est-à-dire au nord de Miami Beach. Cette petite enclave de luxe et,
ouais, ouais.
Et de prospérité.
Et de tranquillité en plus. C'est très safe et très tranquille.
Bah, c'est l'avantage d'être entre soi.
Exactement. Exactement.
Avec Avec ses palmiers, son soleil et sa qualité de vie, Miami agit comme un aimant pour les Français. Sur la plage, chacun veut sa part de rêve.
Et donc, alors, en était à votre vie. Vous avez quitté la France en 85 parce que voilà, les socialo-communistes arrivaient au pouvoir et vous voyez plus d'opportunités d'entreprendre.
Ouais.
Et là, avec toujours vos idées de faire fortune, vous arrivez en Amérique.
J'arrive aux États-Unis, je vais à New York. Et on marchait un jour avec mon frère et on s'est arrêté sous un auvent parce qu'il pleuvait. Et on s'est retourné et on a vu les poulets dans la vitrine qui grillaient. Et on est rentré, on a connu le propriétaire. Et un mois après, on a acheté 50% de la boîte, Chicken Kitchen, à l'époque, où il y avait juste trois petits restaurants qui vendaient du poulet grillé, quoi. Et on a racheté la boîte. On a ouvert encore deux restaurants avec nos associés. Et finalement, la société avait beaucoup de dettes et tout ça. Et j'ai fait ça pendant 15 ans, peut-être. J'allais tous les jours autour de tous mes restaurants pour pouvoir traîner tout le monde. À New York et ensuite à Miami quand je suis venu à Miami.
We at Chicken Kitchen are your healthy fast food. We specialize in marinated grilled chicken. Come on in for your healthy fast food. Once you try it, it'll become your healthy addiction.
Et pendant qu'on roule là, on voit que des Porsche, des Bentley, des belles voitures, ouais, Jaguar ouais. Tout à l'heure.
Ouais ouais. Ça c'est un autre ami là à droite. Il est venu ici aussi à cause des impôts.
Ah oui. Ça, c'est le truc quand même, les impôts qui...
Oui, oui, les impôts, c'est totalement injuste de travailler. Moi, je travaille 6 ou 7 jours par semaine. Je travaille 10, 12, 14 heures par jour. Et c'est vraiment injuste de travailler très dur, de gagner de l'argent et puis de donner 50 ou 60 ou 75% comme Hollande vient de faire. Et puis que l'État redistribue d'une manière inefficace et incompétente. Pour moi, le juste impôt, c'est de donner 20, 25, 30% maximum. Et ça, c'est ma petite maison, là.
Petite, petite.
Sous construction. Alors, on va garer et puis on va marcher la propriété. Ils sont en train de travailler le week-end parce qu'ils sont en train de faire le dallage du sol. Et donc, ils veulent faire ça quand il n'y a pas de travaux pendant la semaine.
Voilà, comme vous disiez, ici, au moins, on peut travailler le week-end.
Enfin. Pas de problème. Pourquoi pas? Si les gens veulent gagner de l'argent, pourquoi l'État peut les arrêter de gagner de l'argent? Également. Si moi j'étais le président de la France, je peux vous garantir qu'en 5 ans, la France serait un pays différent. How was today? Good?
C'est chaud là,
il
y a les gros baraqués là qui travaillent et qui est ruisselant de sueur parce que c'est vrai qu'il fait 35 degrés quand on est en pleine Cagna et on rentre sur votre chantier. C'est une maison moderne.
Voilà, très design. Ici il y a un garage pour 6 voitures.
Donc là, on peut mettre la Ferrari,
la Bentley, la Rolls Royce et puis trois Range Rover au-dessus.
Bon.
C'est raisonnable. Et puis ici, il va y avoir une chute d'eau aussi.
Une cascade?
Cascade d'eau.
Wow,
ouais. Donc, et puis ici, vous voyez là...
Parce que pour l'instant, ce qu'on entend, c'est la bétonneuse là, qui est en train de tourner.
Comme les stars et manger du homard, j'ai trouvé un milliardaire. Et dès ce soir, je vais pouvoir être star.
C'est l'entrée pour... Il y a deux chambres là-bas. Et ça, c'est l'entrée principale, et ça, c'est l'entrée de service.
D'accord, mais là, on va passer par là. On marche sur des portes.
Quand c'est complètement couvert en plus.
Ah, là, c'est un chantier.
Et ça, c'est la deuxième cuisine pour tous les jours, quoi. Comme ça, vous ne salissez pas la cuisine principale.
La cuisine de réception, quoi.
Voilà. Hey, Christian. Hey, buddy.
Hi. Il y a les gars qui travaillent, là. Ah oui, et là, c'est le marbre qui est en train d'être appliqué au sol.
Ça, c'est... J'ai dessiné tout ça ici, vous voyez.
Ça, c'est votre dada, quoi, en fait.
Ouais, c'est toute ma vision, toute la maison.
C'est vous qui êtes en train de décider à quoi ça va ressembler.
Oui, ouais, complètement. J'ai découvert cette passion.
Le poulet grillé marche tout seul, maintenant
Voilà, exactement. Donc, maintenant, je suis architecte et décorateur. Et puis, en face de vous, ici, de ce côté-là, vous voyez, il va y avoir un jardin vertical sur 3 étages,
wow.
Avec une chute d'eau au milieu, en plus. Je voulais avoir l'impression de vivre in and out avec la nature. Et tous les meubles vont être faits aussi en sur mesure.
Sur mesure.
Ouais. Et tout ça, c'est du marbre d'Italie, de Carrara. Vous voyez tout ça là.
Et là, on entend derrière les gars qui travaillent à poser.
Ça, c'est une cheminée ouverte avec le feu en bas.
Ça sert une cheminée à Miami ?
Deux mois par an. Ouais, ouais.
Et tout ça grâce au poulet frit ?
Tout ça grâce au poulet grillé. Ici, il va y avoir un bar pour le movie theater, ici.
Ah, parce qu'il y a la salle de cinéma, bien sûr. Bah oui.
Oui, c'est...
Autant voir grand.
Bien sûr, bien sûr. When you think, you might as well think big. Plutôt penser grand plutôt que penser petit.
Et on voit un peu chez le voisin d'ailleurs, mais alors lui, elle est toute petite sa piscine au voisin.
Oui, oui.
Ça fait petit bras.
Oui. Donc, et vous voyez ici, ça c'est le dressing room, juste pour le make-up.
Ouais, juste pour le maquillage, c'est une pièce entière et on voit une vitrine avec des sacs.
C'est une vitrine genre Prada ou genre Louis Vuitton. Ouais. Où vous avez, où la femme peut montrer ses,
tous ses sacs.
Tous ses sacs à 80 000 dollars et tout ça.
Toujours les signes extérieurs de la réussite.
Voilà, parce qu'aux États-Unis, c'est important. Et ça, vous voyez, ça, c'est la vue que vous avez tous les matins que vous vous réveillez.
C'est bien, moi, ça me va, écoutez.
Ça vous va ouais,
et tout ça, avec c'est... la terrasse, voilà. C'est mon appart à Paris.
Exactement. Et tout ça, ça va être couvert de verre, donc vous ne voyez pas les voisins de l'autre côté. Et puis, ça, c'est la porte. Et puis ça, c'est la pièce de résistance. Vous voyez ça ?
C'est une baignoire.
Ça, c'est une baignoire dans un bloc de marbre. Et ça, ça pèse 3 tonnes. J'ai dû avoir 10 personnes pour bouger ça dans la maison.
C'est un bloc massif de marbre de Carrare qui fait baignoire. Quoi.
Voilà.
Ah ouais, c'est un palais que vous êtes en train de faire là.
Oui, c'est une maison extraordinaire. Wow. Who wants to be a millionaire ? J'ai passé des milliers d'heures. Have flashy flunkies everywhere. Who wants the bother of a country estate? Who wants to wallow in champagne? Who wants a supersonic plane? Who wants a marble swimming pool too? And I don't, cause all I want is you.
In some of the country's hottest housing markets, getting in early can make all the difference. That's what happened to Christian de Berdouard, a Miami Beach resident who got the permits for his 14,000 square foot mansion, rooftop pool included. He plans to sell the modernist spec house for $35.9 million.
1700 mètres carrés, vous m'avez dit ?
1700 mètres carrés, la maison. Super, non ?
Ouais.
Donc maintenant, on va aller à mon endroit favori.
Et là, on monte sur la terrasse.
On monte sur la terrasse.
C'est très chaud, hein ?
Oui. Et puis voilà, la piscine.
Piscine au troisième étage sur la terrasse avec vue panoramique. Oui, c'est ça, comme ça on n'est pas obligé d'aller à la piscine d'en
voilà.
bas.
Donc vous pouvez avoir votre femme avec ses copines en bas, vous avec mes copains ici, et puis les enfants de l'autre côté là-bas, avoir trois...
Chacun sa piscine.
Chacun sa petite piscine, et sympa, non ?
Oh, il y a un énorme iguane là qui est sur le pont.
Ah oui, oui, voilà, oui, oui. Il y a beaucoup d'iguanes ici à Miami. Le gras, il est vraiment gros celui-là. Hein.
Oui, il fait la taille d'un caniche, quoi. Justement, oui, mais... ça fait la taille de votre bassin.
Le baka, oui. Il aurait bouffé pour déjeuner aujourd'hui.
Et des requins, il n'y a pas de requins ?
Non, je n'ai jamais vu de requins. Beaucoup de dauphins. Et
oui, les requins, c'est les requins de la finance.
Voilà. C'est tous les requins de Miami.
Ils marchent sur terre, les requins à Miami.
Il y a beaucoup de requins ici. Je les appelle les barracudas et les requins.
Parce que vous êtes riche et célèbre maintenant, mais vous avez eu des périodes up and down. Quoi.
Ah oui, oui.
Combien de fois vous avez fait fortune et combien de fois vous avez été ruiné ?
J'ai tout perdu en 87 à New York, quand la société est allée en banqueroute. Puis quand j'ai épousé ma femme en 94, j'ai eu un divorce. Et elle et son père, ils m'ont complètement ruiné une deuxième fois.
Deuxième fois.
Donc j'ai complètement tout perdu, hein, tout. J'avais un demi-million de dollars de dettes. Je me suis remonté les manches, mais je n'ai jamais eu un doute que j'allais être successful. Parce que quand vous travaillez dur, et vous êtes smart et vous faites les choses bien, il n'y a pas de raison aux États-Unis de ne pas devenir successful.
Et là, pendant qu'on parle, là, on voit un petit yacht là, qui arrive dans le canal, là, parce que cet endroit, c'est des petites îles
voilà,
qui
non,
sont
reliées. C'est ça qui est très charmant ici.
Qui sont reliées les unes aux autres, voilà, c'est des petites voilà, îles privatisées voilà. ou pas.
C'est comme à Venise ou au sud de la France, quoi. C'est vraiment sympathique, je trouve.
J'ai dit qu'il était sain dans un pays qu'en effet des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires. Et en effet, c'est une bonne chose. Nous ne redresserons pas l'économie de notre pays si nous considérons que réussir, c'est une mauvaise chose. Si nous n'encourageons pas nos jeunes à aller le plus loin et le plus haut possible.
C'est comme être dans un paquebot ici, n'est-ce pas ?
On a le temps de bruit des vagues
ouais,
en permanence.
Ouais. Miami, c'est une ville magique.
Comme un bruit qui court.
Qu'est-ce qu'il faudrait à la France pour devenir comme ça?
La France, pour moi, c'est un pays qui est merveilleux du point de vue de la beauté du pays, de la richesse du pays. Mais il faut avoir des politiciens qui ont le courage de dire aux Français ce qu'il faut faire comme sacrifice.
Alors c'est quoi ces sacrifices? Dites-nous, là, maintenant je suis prêt, là. Maintenant que je suis en haut de votre maison, de 3 étages, avec la piscine, avec la... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi aussi pour avoir...
Il faut éliminer les 30 jours de vacances pour commencer.
Ah oui.
Une semaine par an, ça suffit. On ne peut pas avoir 35 heures par semaine en Europe. C'est la folie. Donc, il faut travailler 45, 50 heures, 60 heures par semaine.
D'accord. Premier sacrifice à faire, c'est ça.
Il faut travailler les samedis et les dimanches, absolument. Il faut baisser les impôts. Il faut faire des lois sociales où on peut virer des gens sans aucun problème.
Et après, ils se débrouillent pour trouver un boulot.
Oui, absolument. Il faut qu'ils se démerdent, comme j'ai fait moi. J'ai perdu tout 2 fois. Personne n'est venu à me dire, voilà, tu as ça. Je n'ai jamais demandé 1 dollar, soit de la France, soit des États-Unis. Jamais. Je me suis remis au cheval et je recommençais à galoper. Et c'est ce que les gens doivent faire.
Bon. En route alors. Vous m'avez gonflé à bloc, j'allais dire. Merci Christian. Vous devriez faire coach aussi.
Hein, absolument.
Du coaching.
Il faut, absolument.
Entrepreneurial.
Absolument, parce qu'il faut redresser la France. Il faut que les gens travaillent dur.
Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié.
Et c'est pour ça que les entrepreneurs sont si importants. Ce sont les héros de la nation. C'est eux qu'il faut aider et leur dire qu'on les aime.
Ciao Mauro. Ciao Bello.
Ce sont des gens qui sont à chaque fois partis de rien. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Ils ne s'arrêtent pas le soir et ils s'arrêtent rarement le week-end. Et ce sont des gens qui mettent leur vie, parfois familiale, leur bien propre, à risque. Reconnaître que le risque pris par l'entrepreneur, l'angoisse qu'il peut y avoir chevillée au corps parce qu'on a tout mis là-dedans et qu'on peut tout perdre, c'est pas faire offense aux autres.
Vous voulez que je fasse un tour du golf? On va prendre un petit carte, on va faire un petit tour. C'est vraiment sympa. Can I take this card?
Of course, yeah, that's
Thanks.
Yours now.
Thank you.
On va voir la petite voiture, hein. Une petite carte là qui va vite. Hein.
Ouais.
C'est beau, c'est une pelouse ouverte, là,
c'est
au milieu
joli, hein.
Des palmiers.
Ouais, ouais. Juste au cœur de Miami Beach.
Ouais, qu'on se prenne pas une balle, hein.
Non, non. Bon, ici, je crois que c'est 150 ou 175 000 dollars pour s'inscrire.
Pas mal.
Et puis, ça coûte, je crois, 15 000 dollars par an d'abonnement. Et puis, toutes les fois que vous jouez, vous payez. Mais moi, quand je viens ici, ça, c'est mon évasion. Je ne veux pas parler d'affaires. C'est le seul endroit où je viens, où je n'ai pas de téléphone, de rien. Donc je suis ici tranquille, on ne veut pas qu'on me fasse chier ici.
Wow, on zigzague entre les palmiers.
Ouais, c'est sympa, non? Joli, c'est Jack Nicklaus,
ouais.
Qui a dessiné le parcours.
C'est la belle vie que vous avez ici quand même. Hein.
Ah oui, non, c'est une ville fantastique. J'ai mon club de golf à 2 minutes de la maison. Je travaille d'ici, je viens ici bouffer ou je viens à mon club. J'ai Chicken Kitchen qui m'amène à bouffer tous les jours. J'ai une vie que même les milliardaires ne peuvent pas avoir une vie comme ça, vraiment.
C'était comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site de France Inter. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux, que le bruit court. Juste après les infos, ce sera l'Esprit Inter avec Mathias Degel et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.